Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. La comtesse de Ségur, son succès éditorial a profité à toute la collection de la Bibliothèque Rose. Et bien sûr, plus tard, souvenez-vous, il y eut aussi le Club des Cinq. Lieu de mémoire, la Bibliothèque Rose, première diffusion sur France Culture le 12 décembre 1998.
Dans une lettre dépourvue d'orthographe, Sophie avait invité Camille, Madeleine et Marguerite, ainsi que leur mère, à venir dîner chez sa belle-mère, Madame Fuchini. Ce fut en calèche que Madame de Fleurville et Madame de Rosebourg se rendirent au château de Madame Fuchini. Madame Fuchini annonça qu'elle allait partir en voyage et que durant ce temps, elle confierait Sophie à Madame de Fleurville. Puis, les enfants s'amusèrent à courir dans le jardin et jouèrent à cache-cache.
On se souvient avant tout de la couverture, en tissu pourpre, gravé d'or, ou bien verni avec les héros en couleur. Et puis surtout, il y avait ce bonheur des premières lectures, celles qui s'inscrivent dans la chair, et qui joue longtemps après le même rôle qu'un parfum oublié. Ouvrir un livre de la Bibliothèque Rose, c'est comme découvrir une porte dérobée vers l'enfance. Entrer de plein pied dans ce monde perdu. On a changé et on n'a pas changé. Mais cela, c'est vrai aussi de la Bibliothèque Rose. Elle a changé insensiblement. Et d'institution quasi obligatoire, elle est parfois devenue objet de suspicion. François Rivière.
Je pense que beaucoup, enfin pas beaucoup, mais des gens s'en réclament un petit peu de manière péjorative pour dire que tel ou tel événement ou telle ou telle littérature, enfin roman ou même événement littéraire, c'est de la Bibliothèque Rose.
Ça veut dire c'est nunuche.
Que c'est nunuche, que c'est cucu la praline, que c'est... Je crois que le terme rose d'ailleurs est peut-être ambigu à ce moment-là, parce que je me demande si les gens aussi confondent pas roman rose et Bibliothèque Rose. Ça mériterait d'être étudié de près, parce que je pense que la notion même, à l'origine, de Bibliothèque Rose, pour l'éditeur qui a lancé cette fameuse série, était reliée quand même à une forme de roman populaire qui englobait encore à ce moment-là le roman sentimental, et qui n'était lui-même pas encore un roman qui n'avait pas un peu dégénéré dans ce qui est de... maintenant de mise d'appeler justement roman rose de manière péjorative. Je pense qu'on a dérapé finalement d'un concept pur et dur de la Bibliothèque Rose jusque là je vais aux extrêmes hein, jusqu'à une vision de cette forme littéraire, de cette référence littéraire un petit peu ringarde.
D'ailleurs à l'époque le roman rose était fleur bleue, mais donc on sort des couleurs.
Oui, les couleurs jouent beaucoup dans la littérature populaire. Oui, ça va du giallo italien qui est synonyme de roman policier au roman rose. Je reviens au roman rose parce que quand même, je pense que le rose, alors justement, c'est le rose de la d'une espèce de féminité un petit peu nunuche justement à ce moment-là. Mais le rose de la Bibliothèque Rose, si on veut en venir à la Bibliothèque Rose, c'est celui de l'enfance. Je pense qu'on a voulu créer justement avec la Bibliothèque Rose une sorte de concept de bibliothèque pour l'enfance, quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait jusque-là. Il existait des romans pour enfants, mais en France justement où se situe cet événement de la création de la Bibliothèque Rose, on n'avait pas, comme c'était le cas en Angleterre, créé un genre littéraire pour les enfants. Donc il s'agissait peut-être de rassembler des œuvres, de mettre ensemble, et sous une étiquette qui voulait vraiment dire ce qu'elle voulait dire, un ensemble de fiction qu'on pouvait baptiser Bibliothèque Rose.
Francis Marcoing, la Bibliothèque Rose, au départ, c'est la Bibliothèque des Chemins de Fer ?
Oui, enfin, c'est une des sections de la bibliothèque des chemins de fer, hein, qui avait été créée donc par la maison Hachette, qui avait finalement le monopole de la distribution des livres sur les lignes de chemin de fer. Donc, à l'origine, il y a plusieurs séries et on commence à voir apparaître cette série rose qui contient au départ un certain nombre de recueils de contes dans lesquels on va pouvoir comprendre le premier livre de la comtesse de Ségur, donc qui vont devenir les nouveaux contes.
Quelles étaient les autres séries ?
Il y avait d'autres séries qui étaient consacrées pour certaines, par exemple, notamment aux auteurs étrangers, où on pouvait trouver Dickens. Et donc, en fait, chacune de ces séries va ensuite plus ou moins se perpétuer. Mais ce qui est intéressant, c'est de signaler que les ouvrages de la Bibliothèque Rose vont garder dans l'ensemble une présentation qui est très voisine de celle des autres séries. C'est-à-dire que les ouvrages pour adultes et les ouvrages pour enfants n'ont pas forcément une présentation fondamentalement différente. C'est-à-dire c'est la couleur, évidemment, qui va les différencier. Évidemment, après, éventuellement, le type d'illustration. Mais le format, la typographie présente finalement une certaine homogénéité pendant très longtemps.
Le fait qu'il y ait des illustrations aussi, on trouvait des illustrations dans les livres pour adultes ?
Oui, enfin, je crois que d'ailleurs il y a un paradoxe, c'est que l'illustration n'est peut-être pas au départ dirigée vraiment vers l'enfant. Quand on regarde la naissance du livre illustré, on se rend compte que l'image finalement s'adresse peut-être davantage à l'adulte. Alors bien entendu, on tire vite parti de l'illustration à l'usage des enfants, mais ça n'est pas un privilège. Et bon, finalement, on a eu auparavant d'ailleurs le livre romantique, qui était un livre très illustré de vignettes. Et même les livres pour adultes sont généralement illustrés. Les romans peuvent être illustrés beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, par exemple.
Pour les textes, cette fois, on pense enfance.
Oui, donc on pense enfance, d'ailleurs, depuis quelque temps déjà. Donc il faut signaler que Hachette arrive relativement tardivement, finalement, sur ce marché. On peut dire que la librairie pour l'enfance, au sens un peu moderne du terme, naît vers les années 30. Hachette a d'ailleurs ouvert lui-même sa maison vers 26, mais il s'est d'abord intéressé plutôt aux ouvrages scolaires ou aux ouvrages élémentaires. Il a un catalogue de livres élémentaires pour l'enfance, parmi lesquels d'ailleurs certains titres vont se retrouver ensuite en bibliothèque rose. C'est-à-dire qu'on va les trouver à la fois en livres de classe, pourrait-on dire, et en livres de récréation. C'est le cas notamment d'un des auteurs importants de cette collection, qui est Madame Caro, Zulma Caro, qui était qu'on connaît surtout pour être l'ami de Balzac, et qui, à mon sens, était un très grand écrivain, et donc qui a commencé, en fait, par produire des livres de lecture.
Qui étaient des histoires, des fictions ?
Oui, des fictions, enfin, minimales, je dirais, relativement inécrites, qu'elle pensait pour les enfants, d'ailleurs, du Berry, pour les enfants les plus pauvres, les plus démunis, donc il s'agissait de leur apporter les éléments, comme on disait. Ensuite, on peut dire que ses ambitions vont peut-être un petit peu augmenter. Enfin, ses ambitions, d'ailleurs, c'est peut-être pas le mot, parce qu'après tout, c'était déjà une très belle ambition que de s'adresser aux plus petits. Mais disons que son ambition littéraire va quand même se développer, notamment avec les Métamorphoses d'une goutte d'eau, qui était un très grand texte quasi philosophique à l'usage des enfants, qu'on va trouver donc là dans la Bibliothèque Rose.
Moi, j'ai vu la Bibliothèque Rose avec les couvertures en percale grainées. Rouge, puisqu'elle était rouge, en fait, la Bibliothèque Rose, avec des fers dorés, parce qu'on ne peut pas dire autrement, mais avec cette espèce de relief qui avait quelque chose de complètement fascinant sous les doigts. Ça ressemblait à des petits coffrets, un peu, les livres de la Bibliothèque Rose d'origine. Et en fait, moi, ce que j'ai lu, c'était surtout la Comtesse de Ségur, mais en même temps... je me souviens de m'être fait avoir parce que d'autres éditeurs avaient compris qu'il fallait faire ce genre de livre pour les enfants. Donc d'autres maisons d'édition publiaient des romans pour enfants sous une présentation similaire. Mais des romans qui étaient différents. Parce que je pense que la Comtesse de Ségur avait donné quand même un ton. Et les gens qui ont écrit un peu après elle ou vers la fin de son règne, qui était d'ailleurs quelquefois sa propre fille ou son gendre, et faisait un petit peu de la comtesse de Ségur, en beaucoup moins bien évidemment, parce que personne n'a eu son génie, mais je pense qu'elle a créé une sorte de genre à l'intérieur d'un vaste genre de littérature enfantine.
Après 2 heures de course et de jeu, comme elles avaient très chaud, elles rentrèrent à la maison. « Dieu, que j'ai soif !» dit Sophie. « Pourquoi ne bois-tu pas ?»« Parce que ma belle-mère me le défend. » « Pauvre Sophie, mais c'est affreux cela !»« Sophie, Sophie, criait en ce moment la voix furieuse de Madame Fichini. Venez ici, mademoiselle, tout de suite. Sophie, pâle et tremblante, se dépêcha d'entrer au salon où était Madame Fichini. Camille, Madeleine et Marguerite avaient peur pour la pauvre Sophie. Elles restèrent dans le petit salon, tremblant aussi et écoutant de toutes leurs oreilles. « Approchez, petite voleuse, pourquoi avez-vous bu le vin ?»« Quel vin ? Maman, je n'ai pas bu de vin !»« Quel vin ? Menteuse ! Celui du carafon qui est dans mon cabinet de toilette. Je vous assure, maman, que je n'ai pas bu de votre vin, que je ne suis pas rentrée dans votre cabinet. » Ah, vous n'êtes pas entré dans mon cabinet. Et vous n'êtes pas entré par la fenêtre. Et qu'est-ce donc que ces marques que vos pieds ont laissées sur le sable devant la fenêtre du cabinet?
On peut imaginer qu'effectivement, le rôle de la comtesse de Ségur a été important. Il est certain que la comtesse de Ségur, tout en reprenant finalement au départ des situations, des types d'écrits qui finalement étaient très voisins de ce que l'on pouvait trouver, hein, va quand même très vite inventer quand même quelque chose de nouveau. Et autour d'elle, la maison Hachette va rassembler des auteurs, dont certains d'ailleurs écrivaient déjà depuis longtemps. On peut citer même Zénaïde Fleuriot, qui en fait était publiée déjà bien avant, ou quelqu'un comme Julie Gouraud, par exemple, qui dès les années 30, également, avait connu un certain succès, avait eu le prix Montyon. Et donc certains de ses ouvrages vont être repris en Bibliothèque Rose, et elle va en écrire évidemment de nouveau. Donc, à ma connaissance d'ailleurs, c'est à une certaine époque, vers 1975 ou 80, je crois que c'était Julie Gouraud qui arrivait en tête pour le nombre de livres publiés dans la Bibliothèque Rose.
Qu'est-ce qu'elle écrivait ?
Alors, elle écrit notamment, elle était célèbre au départ pour l'histoire d'une poupée, qui a relaté les tribulations d'une poupée qui était enlevée, qui passait un peu de main en main. Donc, c'est là un schéma assez classique, où elle mêlait un peu d'exotisme, puisqu'elle-même avait connu l'île de Saint-Domingue. Donc très souvent, elle s'arrange pour qu'un de ses personnages se retrouve par une série de hasards providentiels sur cette île. Elle a donné d'ailleurs des suites. Elle a écrit plusieurs histoires de poupées, des histoires de voyage également. Il y a une histoire de caniche enlevée également. Alors là, c'est plus une poupée, c'est un caniche. Hein. Bon, c'est en général d'ailleurs assez bien fait. Il y a tous les romantissements qu'on peut attendre d'une histoire de ce genre. Bon, disons qu'au bout du compte, évidemment, on ne trouve plus beaucoup d'originalité, puisque c'est un schéma qui revient toujours. Mais je préciserai, un schéma aventureux, finalement. Et ce qui distingue, finalement, la comtesse de Ségur de tous ces autres auteurs, y compris auteurs féminins, sauf Jules Macaro, c'est finalement le refus de l'aventure. C'est-à-dire que la comtesse de Ségur arrive à passionner ses lecteurs en refusant totalement l'aventure.
Soudain, Capitaine s'arrête net devant un grand chêne et se met à aboyer d'un air tellement inquiet que Moutier s'approche de l'arbre. À sa grande surprise, le brave soldat découvre sous le chêne deux petits garçons serrés l'un contre l'autre.
Oh, monsieur, nous avons faim. Nous avons froid.
Mais qui êtes-vous, mes pauvres enfants ? Où sont vos parents et que faites-vous tout seul ?
L'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'exemple de l'Auberge de l'Ange Gardien, hein, qui commence comme un livre d'aventure traditionnel, c'est-à-dire on rencontre deux orphelins qui sont sur les routes. Donc on s'attend évidemment à ce qu'ils fassent un périple qui les conduise en fin de compte à leurs parents. Et ça n'est pas du tout ça. Immédiatement, au bout de quelques pages, ils sont adoptés et ils ne bougeront plus. Donc on peut même dire qu'il y a là presque un jeu de la comtesse de Ségur avec l'aventure. C'est-à-dire qu'elle nous dit non, ça n'est pas ce roman-là que je vous raconterai. Je vais vous raconter tout à fait autre chose. Et donc, c'est dans le lieu de cette auberge que viennent, au contraire, les gens. On ne les voit pas partir. Alors, évidemment, il y aura une suite comme le général Dourakine, où là, se produira ce retour en Russie, mais qui est un retour, alors évidemment aventureux, mais qui est une véritable catastrophe, hein, puisque c'est le pays de la terreur. Et on n'aura de cesse, évidemment, que de revenir, en fin de compte, dans cette auberge.
Il y a aussi l'aventure de Paul dans les vacances, mais qui est une aventure terminée.
Oui, et puis qui est une aventure, je dirais, racontée à l'intérieur du récit. C'est-à-dire que ce n'est pas une aventure que nous vivons en direct. Alors que dans, là aussi, si on prend le schéma de la romançonnade, qui va se développer tout au long du siècle, on aurait probablement un livre qui ne porterait que sur cette aventure et nous assisterions à toutes les péripéties. Donc là, finalement, c'est lui-même qui vient finalement résumer cette aventure et qui se réduit quand même finalement à peu de choses et qui là, à mon avis, est aussi un clin d'œil à toutes ces romançonnades qu'on trouve déjà assez nombreuses à cette époque.
Isabelle Nière, vous en avez lu, des bibliothèques roses ?
Oh, beaucoup, beaucoup. Chez ma grand-mère, il y avait une bibliothèque vitrée, je m'installais sur une petite chaise à côté et j'ai lu toute la bibliothèque. Combien de volumes ? 30, 40, 50 ? Des choses radicalement inconnues, une histoire en Bulgarie avec des roses, etc. Mais je ne sais plus. Et j'ai lu bien sûr tous les Ségur. C'est quelqu'un qui a une parfaite conscience que le matériau de l'écrivain, c'est la langue, qui ne se répète jamais, qui donc varie les structures de roman en roman, qui tente des choses, qui invente des choses, qui invente des choses tout à fait passionnantes. Par exemple, dans un de ses romans qui s'appelle « Divo le cheminot », elle invente que les deux jeunes enfants rapportent une histoire, ils mêlent en rapportant deux histoires. Et en mêlant deux histoires, ils font affleurer quelque chose de scandaleux. Ils font affleurer quelque chose qui ressemble à une histoire de viol. Bon. Et ils vont raconter ça à la bonne qui dit « je ne comprends rien ». Et la bonne remet en ordre le désordre enfantin. Ainsi, Ségur utilise la parole enfantine pour produire un effet littéraire tout à fait exceptionnel, bien au-delà d'une simple imitation de la langue enfantine.
La comtesse de Ségur, son sort est lié à celui de la Bibliothèque Rose, c'est-à-dire pratiquement dès le départ, dès la création de la Bibliothèque Rose par Louis Hachette. Elle a été une des premières à qui on avait signé un contrat. Elle était à l'époque assez âgée, elle avait 56, 57 ans, quelque chose comme ça. Et puis elle a publié exclusivement pour Hachette.
Alors on peut dire les deux. On peut dire que son sort est la Bibliothèque Rose, on peut dire aussi que la Bibliothèque Rose est liée à son sort. En fait, elle signe avant la création de la Bibliothèque Rose et ses premiers textes, c'est-à-dire les nouveaux contes de fées et les petites filles modèles, vont paraître dans la collection pour enfants de la Bibliothèque des chemins de fer. Et je crois que le premier qui paraît directement dans la Bibliothèque Rose, ce sont les meilleurs de Sophie. Ensuite, les petites filles modèles seront rééditées en Bibliothèque Rose et tous les romans suivants seront édités directement en Bibliothèque Rose.
Elle avait des relations assez épineuses parfois avec ses éditeurs.
Tout à fait, tout à fait. D'abord, il semblerait, d'après sa correspondance, qu'au départ, Hachette lui signe un contrat, moins parce qu'il est émerveillé par ce qu'elle produit, que parce que Hachette voudrait obtenir la concession des chemins de fer de l'Est et que il faut donc et que c'est Monsieur le mari qui est responsable ou directeur, je ne sais plus, de cette compagnie. Et la correspondance qui a été publiée par Claudine Bossan donne les lettres de la comtesse de Ségur dès le départ sur le titre à donner au nouveau conte de fées. La correspondance avec son éditeur est absolument merveilleuse de dynamisme, d'invention. Maman, elle dit « je suis comme un vieux ballon crevé ». Bon, sa correspondance est tout à fait passionnante.
Sac à papier, que ce voyage est long et fatigant. Dorigny, votre femme n'aurait pas quelques provisions? Un petit repas nous ferait passer le temps.
Si, mon général, il y a un pâté, un jambon, du malaga, du poulet, des fruits.
Bien, faites-nous passer tout cela. Je suis certain que Jacques et Paul ne seront pas fâchés de me tenir compagnie.
Ah, mais certainement, mes enfants seront ravis, général.
Et pourquoi diable Madame Dorigny empêche-t-elle ces deux enfants de parler, de remuer? Je n'entends qu'il leur fait chut.
Et ma femme craint que leur bavardage et leur rire vous dérangent.
Me prenant donc pour un ogre, pour un tigre? Suis-je un monstre, un diable?
Mais pas du tout, mon général. Mais depuis que nous avons quitté la France, ils n'ont cessé de vous poser des questions. Ils vous fatiguent.
Du tout, du tout. Ce ne sont pas eux qui m'ennuient. Ce sont ces osmotiques. Faites-les donc marcher. Nous avançons comme des tortues. Mon cher Deligny, je vous ai emmené de France en Russie pour être mon intendant. Il faut que vous appreniez à commander mon personnel. Dites assez drôle, Durak Skatina Skarei.
Durak Skatina Skarei.
Vous voyez bien, ils ont compris cette fois.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Durak Skatina Skarei?
Ça veut dire imbécile, animal, plus vite.
De la comtesse de Ségur, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque c'est une forme de roman dans lequel les enfants sont enfin pris au sérieux et ont enfin une existence qui est presque l'équivalent pour le petit monde des héros, des héroïnes de romans noirs, gothiques du XVIIIe siècle, ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, j'exagère un petit peu, mais cette Russe qui arrivait comme ça enfant dans un pays qu'elle connaissait pas et qui s'est mise à vouloir finalement raconter en les transformant de manière extrêmement précise, quoi, toutes sortes d'aventures plus ou moins fantasmatiques ou réelles qu'elle avait vécues dans son enfance russe, qui était une enfance quand même assez assez rude. En fait, en faisant ça, elle a créé quelque chose de complètement neuf, quoi. Elle a, à aucun moment, je pense, elle n'a eu de réticence vis-à-vis de son public. Parce que je crois que c'est ça le problème des auteurs pour enfants, c'est que souvent, ça vient quelquefois même des éditeurs, on a des réticences, quoi. On oublie qu'on doit être en communion complète, quoi, qu'on doit être redevenu un enfant. Et le cas de la comtesse Ségur est intéressant parce qu'elle était restée une petite fille dans sa manière, une espèce de vieille petite fille qui ne passait rien à personne et qui se vengeait quand même un petit peu de du monde adulte et peut-être surtout de ce monde adulte français qu'elle devait trouver un peu mou. Pas du tout conforme à ce qu'elle aimait, quoi.
Comment est-ce qu'on peut caractériser ces livres-là, de la comtesse de Ségur, par rapport au public de l'époque, par rapport aux enfants de l'époque? Comment est-ce qu'ils ont été reçus? Est-ce qu'on sait ça?
Je ne suis pas sûre qu'on ait jamais fait un travail là-dessus. Bon, ce qui est à peu près clair, c'est que les tirages sont peut-être normaux, hein, les premiers tirages sont 5 000 exemplaires, mais ils sont absolument régulièrement réédités. On les trouve dans les brocantes ou autres, on trouve très facilement qu'ils ont été offerts en livre de prix pendant toute la fin du 19e siècle. Et surtout, ce qui est un signe, je crois, c'est la présence, je dirais, dans les mémoires, à la fois les mémoires individuelles des gens et les mémoires rédigées. Hein, les textes, bon, l'ouverture du livre de Cabanis, je ne sais plus quelle est la formule, je ne serais pas le même si je n'avais pas tant lu la comtesse de Ségur. Bon, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les cultures. Il y a un souvenir très joli, c'est dans Proust, dans le Temps retrouvé. Le narrateur raconte que dans ce qu'on pourrait appeler un dîner de tête, il rencontre plein de gens connus auparavant, tous vieux et décatis, et dont un monsieur qui, dans le temps, était terrifiant et très désagréable, monsieur d'Argencourt. Et alors, il le décrit avec une cruauté extrême, et il finit par dire comme un général d'Ourakine tombé en enfance. Bon, et ce qui veut dire d'ailleurs que ce n'est pas tellement le texte de Ségur que l'illustration de Bayard. Et pour Proust, il va de soi que tout le monde a l'image en tête, hein, cette espèce de d'Ourakine, gros bébé, gros ventre, illustré par Bayard. Je crois que c'est la présence dans les mémoires qui est vraiment l'indice du succès. Ou par exemple Gide dans C'est le grain de mœurs, se défend d'avoir lu les contes de Ségur et d'y avoir pris du plaisir. Merveilleux, quoi. Reniant. Par contre, son père lui lisait le livre de Job, et ça c'est très bien. C'est très chic. Alors que, si vous voulez, Gide a l'hypocrisie que n'a pas Jean-Paul Sartre, hein, qui dit qu'il se vautrait dans ses lectures d'enfance.
Cher Jean Noël, nous sommes heureux de vous voir ici. Vous êtes un homme rare, très occupé, et je vous remercie de nous consacrer quelques instants.
Écoutez, Madame Géraldine Gérard, si vous permettez, c'est moi qui vous remercie d'évoquer grâce à vous des souvenirs d'enfance et ce chapitre de lecture qui est certainement l'un des plus intéressants pour un être humain qui aime la lecture.
Je vous ai téléphoné, comme j'ai téléphoné à beaucoup de personnalités, et j'ai posé la question qui est devenue rituelle. Qu'est-ce que vous lisiez dans votre enfance? Vous, un fils de poète, vous étiez tellement gâté au point de vue du milieu dans lequel vous avez vécu, certainement, n'est-ce pas?
Écoutez, vous êtes gentil de le dire. Non, à la vérité, il faut bien, pour qu'on comprenne ce qu'on lit dans son enfance, se placer dans le cadre oui. Où l'on vit. Il est certain que j'habitais chez des parents charmants, vous le savez, ma mère faisait des dessins, mon père faisait des vers, c'était des gens, des êtres vraiment exceptionnellement gentils, pour prendre ce mot. Et bien entendu, ce qui m'a le plus frappé dans ma jeunesse, c'était ce qui me dépaysait totalement. Et c'est pour ça que je vous ai indiqué, quand vous m'en avez parlé, le général Dourakine.
Oui.
Parce que voilà, j'ai d'abord commencé presque à lire dans la comtesse de Ségur. Mais les premiers livres de la comtesse de Ségur, les Mémoires d'un âne, les Aventures de Sophie, me faisaient rencontrer des enfants pareils à ceux que j'avais l'habitude de voir autour de moi.
Naturellement.
Ou à peu près semblables. Tandis que le général Dourakine, brusquement, m'a fait faire mon premier voyage. J'ai découvert un nouveau pays, la Russie. Ça a été mon premier voyage dans la vie.
Instrument éducatif pour les enfants.
Oui, éducatif, mais à condition de s'entendre sur ce mot. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a très souvent au départ dans les livres pour enfants une exigence d'éducation, ou du moins l'exigence de respecter un certain nombre de critères moraux, par exemple. Mais très souvent, on a tendance à rejeter la littérature enfantine du XIXe siècle sous prétexte qu'elle serait didactique et que, d'une certaine manière, elle se serait emparée de la fiction pour la tuer. Moi, je ferais le raisonnement inverse, c'est-à-dire, je dirais que c'est finalement la fiction qui est née du souci primitif didactique, puisqu'on a commencé par écrire des ouvrages didactiques et petit à petit qu'on a écrit des ouvrages d'aventure. Ce n'est pas le contraire. On n'a pas commencé par écrire des ouvrages d'aventure pour ensuite les dénaturer. Et quand on parle toujours de l'île de trésor, qui est, d'une certaine manière, le modèle même du de ce qui serait un vrai roman, c'est-à-dire dépourvu totalement de soucis moraux, mais il faut, à mon sens, c'est un aboutissement. L'aventure naît finalement aussi d'un besoin de savoir. C'est parce que justement on veut, par exemple, faire découvrir des pays, les plantes, les coutumes, les indigènes, que sais-je, que l'on va justement transporter les personnages, et souvent des enfants, dans le monde. On va leur faire finalement vivre des naufrages pour qu'ils puissent justement être dans une île où il y a des choses. Oui, herborisées, voilà. Donc, bon, finalement, d'ailleurs, une littérature qui serait purement distrayante, sans contenu, deviendrait vite vide. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas forcément cette antinomie entre ces deux plans, du savoir et du plaisir, ou même, j'irais même, des connaissances, voire même du souci didactique. Donc, les thèmes sont très variés. Vous avez une présence très grande de l'histoire, de la géographie, et même la Bibliothèque Rose, qui pour nous reste associée donc à la comtesse de Ségur, et comme on l'a dit tout à l'heure, au refus de l'aventure, à l'enfermement un peu dans le jardin familial. Cette Bibliothèque Rose, en fait, est ouverte à des auteurs comme Menreed, qui est une espèce d'autre Fenimore Cooper, donc, où justement on trouve des chasseurs de plantes, mais qui vivent des aventures. Vous avez toutes sortes de récits d'expéditions au pôle. Vous avez là aussi quelques Robinsonnades. Donc vous avez finalement une sorte d'éventail assez varié de préoccupations. Alors par exemple, chez les Zénaïde Fleuriot, vous avez très souvent des histoires d'enfants qui sont de familles connaissant des problèmes financiers, c'est-à-dire ce ne sont pas forcément des pauvres, mais ce sont des familles d'origine plutôt aisée, voire aristocratique, mais qui tombent dans la déchéance. Et donc, il y a d'ailleurs un côté balzacien chez Zénaïde Fleuriot, puisqu'elle insiste énormément sur la question de l'héritage, qui est vraiment un problème balzacien par définition. Donc il y a très souvent cette nécessité pour le jeune héros ou la jeune héroïne de Zénaïde Fleuriot de se refaire une place, de se faire accepter également. Et très souvent, d'ailleurs, de se faire accepter, par exemple, même dans sa famille. Par exemple, ses parents sont morts, donc le personnage va être adopté, quelquefois à contre-cœur ou accueilli à contre-cœur. Et ce jeune personnage doit montrer qu'il est digne d'être adopté.
Madame de Stolz, elle, c'est l'aventure aussi.
Ça dépend, parce que je dirais qu'il y a deux Madame de Stolz. Il y a une Madame de Stolz, alors justement très, on pourrait dire, engagée dans la dévotion, Donc, il publie d'ailleurs ailleurs que dans la Bibliothèque Rose. Elle publie notamment chez l'éditeur catholique Perry, qui publie donc essentiellement à destination des jeunes filles, des histoires d'oblation, hein, où, dans le fond, la destinée de la jeune fille, c'est d'épouser le Christ. Donc, elle a, même dans la Bibliothèque Rose, par exemple, vous prenez un titre comme « Par-dessus la haie », hein, vous trouvez une histoire de jeune fille qui, finalement, d'une manière ou d'une autre... ne va pas vivre dans le monde, comme on disait, dans la société. Mais vous avez d'autres ouvrages, et notamment un de ces ouvrages qui est quasiment un peu une exception dans son œuvre, hein, qui est justement La Maison Roulante, qui a fait rêver hein, toutes sortes de lecteurs, hein, puisqu'il s'agit là d'un schéma classique, hein, d'un petit garçon qui est enlevé par des bohémiens. Alors, ce qui est très abusant, d'ailleurs, c'est qu'il se fait évidemment enlever en bohème, hein, alors que son père vient de lui dire que, justement, il ne faut pas confondre la bohème et les bohémiens, que ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, quand même, c'est quand même là hein, qu'il va se faire enlever, hein, avant, évidemment, de retrouver sa famille tout à la fin du livre. Donc là, on retrouve un schéma très, très classique qu'elle illustre quand même de manière personnelle parce que, d'une certaine manière, elle nous raconte une aventure et en même temps, elle nous raconte la haine de l'aventure. C'est-à-dire que ce jeune héros ne sera jamais séduit par les gens qui l'ont enlevé, par cette espèce de petit cirque qu'il a enlevé, alors que la plupart du temps, dans les autres ouvrages, il y a quand même une sorte de complicité qui finit par s'installer entre le jeune héros et ses ravisseurs.
On revient encore à la haine de l'aventure.
Oui, d'une certaine manière, il y a une haine de l'aventure, mais on peut dire que paradoxalement, le roman d'aventure peut naître aussi de cette haine de l'aventure. C'est-à-dire qu'on va raconter ce qui fait peur, finalement. Et donc, d'une certaine manière, est-ce que nous, d'ailleurs, lecteurs, nous ne vivons pas dans la haine de l'aventure ? Parce que nous vivons des aventures par procuration, mais nous gardons bien de les vivre. Donc, d'une certaine manière, il y a à la fois cet attrait et sans doute cette haine de l'aventure véritable. On lit des livres pour ne pas peut-être avoir à vivre en vrai des aventures.
Quelle destinée est-ce que ces livres ont connue ? On sait que la comtesse de Ségur est arrivée grande première jusqu'à nos jours, mais ces autres auteurs, est-ce qu'ils ont eu des carrières très courtes et flamboyantes ou est-ce qu'il y en a qui ont tenu longtemps ?
Alors, bon, ce ne sont pas forcément des carrières très courtes, mais évidemment, elles sont beaucoup plus courtes quand même que celles de la comtesse de Ségur. Bon, comme j'ai indiqué tout à l'heure, Julie Gouraud est quelqu'un quand même qui a été publié avant la création de la Bibliothèque Rose, donc dès les années 30, qui continue d'être publié au moins jusqu'à la fin du siècle, et ainsi que tous les autres auteurs. Mais on voit quand même par une sorte de décroissance quand même des ventes de ces auteurs et même de la place de ces auteurs dès la fin du siècle. Par exemple, quelqu'un comme Zulma Caro, bon, qui occupe une place un peu à part, hein, mais quand même disparaît peu à peu du catalogue. Et elle ne réapparaîtra pas. Donc l'auteur qui, après la comtesse de Ségur, a sans doute eu la postérité la plus longue est Zénith Fleuriot, qui a été en quelque sorte en concurrence avec elle pendant très longtemps, en gros, pourrait-on dire, jusque dans les années 50-60 de notre siècle, puisque si on regarde les fonds de bibliothèques scolaires, hein, on va trouver à peu près à part égale des titres, d'ailleurs qui sont très nombreux, de Zénith Fleuriot, les titres de la comtesse de Ségur. Et dans les premiers travaux qui ont été faits sur la littérature de jeunesse, c'était d'ailleurs un discours traditionnel que de comparer et d'opposer les deux auteurs.
Sophie posa son pied sur la chaux, pensant que c'était solide comme la terre, mais son pied enfonce. Pour ne pas tomber, elle pose l'autre pied et elle enfonce jusqu'à mi-jambe. Elle crie. Un maçon accourt, l'enlève, la met par terre et lui dit « Enlevez vite vos souliers et vos bas, mamselle. Elles sont déjà toutes brûlées. Si vous les gardez, la chaux va vous brûler les jambes. » Sophie regarde ses jambes. Malgré la chaux qui y tenait encore, elle voit que ses souliers et ses bas sont noirs comme s'ils sortaient du feu. Elle crie plus fort et d'autant plus qu'elle commence à sentir les picotements de la chaux qui lui brûlait les jambes. Sa bonne n'était pas loin. Heureusement, elle accourt, voit sur le champ ce qui est arrivé, arrache les souliers et les bas de Sophie, lui essuie les pieds et les jambes avec son tablier. La prend dans ses bras et l'emporte à la maison. Au moment où Sophie était déposée dans sa chambre, Madame de Réan rentrait pour payer le marchand de fleurs. « Qu'y a-t-il donc ? demanda Madame de Réan avec inquiétude. T'es-tu fait mal, Sophie? Pourquoi es-tu nu-pied?
En tout cas, ce qui est tout à fait frappant et évident, c'est que la comtesse de Ségur a eu du succès dès le début et qu'elle en a jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 150 ans plus tard.
Alors ça, c'est tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. Je crois qu'aujourd'hui, on trouve des enfants qui en lisent un, et puis ils arrêtent là, et d'autres qui vont avoir lu tout. Je parle récemment la fille d'une de mes collègues, c'est la gamine qui me prend au téléphone, et sa mère me dit « Ah !» Tu as eu à l'appareil une des fanatiques de la comtesse de Ségur. Il y a quelques années, une jeune femme qui était bibliothécaire d'une section pour enfants, à la veille de vacances, une gamine, disons 10-12 ans, sort des comtesses de Ségur. Et on était après 68, donc Ségur, ça ne s'était pas, on ne devait plus aimer ça. Elle lui dit, mais enfin, tu as déjà lu ça? Et la fille lui répond avec des petites étincelles dans les yeux. « Oui, madame, mais c'est vraiment ce que j'ai lu de mieux. » Donc là, je crois qu'on a encore un quart de rond. On a encore un quart de rond de fidèle.
Et ça crée un attachement à la Bibliothèque Rose.
Voilà, c'est ça. Ça crée un attachement à la Bibliothèque Rose. Je crois que y a une sorte de, la qualité du travail de Ségur profite à l'ensemble de la collection. D'autant que Hachette, par un coup de génie, je ne sais pas très bien, a conservé ce qui est rarissime, la même couverture, moins belle le temps passant, dans sa qualité matérielle, la même couverture pendant un siècle. Ce qui me semble un phénomène absolument unique.
Est-ce que, en un siècle, on peut avoir le sentiment que la Bibliothèque Rose a suivi l'actualité ou pas du tout? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une littérature autour de la guerre à l'époque de la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a eu une littérature nationaliste, revancharde? Est-ce que les grands événements du siècle sont arrivés jusqu'à ces livres de la Bibliothèque Rose ou pas du tout?
Alors, l'événement qui a sans doute le plus marqué toute la littérature de jeunesse, c'est la guerre en fait de 70. Donc évidemment, par exemple, chez quelqu'un comme Hetzel, si on lit la bibliothèque d'éducation de récréation, on s'aperçoit enfin, que c'est un souci constant chez Hetzel. On en trouve également des traces importantes, mais plus, malgré tout moins fortes, dans la Bibliothèque Rose. J'ai parlé de Madame de Stolz tout à l'heure. Eh bien, par exemple, dans ce roman que j'évoquais, Par-dessus la haie, on évoque cette nécessité du dévouement ou du sacrifice, y compris, enfin, peut-être pas sacrifice, en tout cas du dévouement, par exemple, de la femme. Hein, pendant que l'homme va se battre, la femme, elle, doit également se montrer méritante, vertueuse, infirmière, par exemple. Il me semble que la guerre de 14-18, dans ses collections roses, le sera moins. On va passer, finalement, probablement un renouvellement, quand même, du secteur de l'édition. Et la Bibliothèque Rose va d'ailleurs de plus en plus se restreindre au public le plus jeune. Et c'est plus tard qu'on va voir, par exemple, ce fameux diptyque Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rose, qui n'existait pas à l'époque dont nous parlons, au XIXe siècle, puisque la Bibliothèque Verte va reprendre notamment beaucoup de titres de Hetzel, hein, Hachette, enfin la maison Hachette reprenant Hetzel au moment justement de la Première Guerre mondiale. Donc on peut dire que au cours du XXe siècle, mais ça, je crois que c'est un trait général de la littérature de jeunesse, le motif politique va certainement s'effacer. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on parle davantage de politique ou de social, même, aux enfants, disons, aux jeunes. Hein. La politique internationale est toujours énoncée au XIXe siècle. On pourrait citer un autre ouvrage, alors là, d'un auteur masculin de la Bibliothèque Rose, qui est assolant, donc qui, dans Le Capitaine Corcoran, évoque des questions, pourrait-on dire, de stratégie, de politique entre les Français et les Anglais dans les Indes. Alors justement, j'ai évoqué la question du colonialisme, hein, cette question des conquêtes coloniales, de l'administration par la France, hein, de ces colonies, est une question qui est souvent évoquée, alors pas dans des romans, mais par exemple également dans dans les périodiques, puisque Hachette publie un périodique qui est le Journal des enfants, où paraissent certains des romans qui vont ensuite être publiés, évidemment, dans les collections, mais où paraissent également des articles, qui sont plus des articles, pourrait-on dire, d'actualité, et qui traitent de ces questions-là. Le XXe siècle va voir, je crois, l'affaiblissement progressif du traitement de ces questions, puisque ensuite on continuera de trouver des romans d'aventure qui se déroulent par exemple en Afrique, mais la question coloniale ne sera pas évoquée directement. L'Afrique sera, d'une certaine manière, une terre d'aventure d'où on effacera tout ce qui pourrait être gênant peut-être sur le plan politique.
Mais tout de même, Francis Marcouin, moi ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est cette idée d'effacement progressif de beaucoup de choses. Effacement des contraintes, effacement du didactique, effacement du politique, effacement du social. Sur quoi est-ce qu'elle se construit, la Bibliothèque Rose ?
Quand je parle de cet effacement, je ne parle pas spécialement de la Bibliothèque Rose, je parle peut-être de la littérature enfantine d'aujourd'hui, qui effectivement est une littérature qui, à mon sens, est un peu vidée de sa substance, puisque, enfin, en caricaturant un peu, elle privilégie quand même très fortement des problèmes psychiques qui se passent à l'intérieur de la famille. Alors, bien entendu, il y a une variété encore suffisante pour trouver d'autres choses. Mais je dirais que la tendance aujourd'hui est beaucoup plus d'aller vers la célébration de l'enfant pris comme tel et dans le fond n'ayant pas à s'intéresser à autre chose qu'à lui-même. Et toujours peut-être d'ailleurs par souci de rompre avec le didactisme. Alors ce souci au départ est sans doute un souci légitime, mais on peut se demander si quelquefois il ne conduit pas justement à un excès, puisque, comme j'ai indiqué tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'opposition entre didactisme et aventure. S'il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a peut-être plus à aller voir le monde non plus.
Un moment qui aurait pu être vécu comme une rupture absolue et que Hachette, très finement, a réussi à masquer, en quelque sorte. C'est ce passage entre l'ancienne Bibliothèque Rose et la nouvelle Bibliothèque Rose. On aurait pu penser que le changement était tel qu'on ne verrait pas de continuité. Eh bien, il y en a une.
Alors, c'est plus compliqué que ça. Parce que le changement, c'est plutôt la période d'avant la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres. Parce qu'entre les deux guerres, la stratégie éditorial d'Hachette change complètement. Et Hachette, d'une part, entretient le patrimoine, ils ont racheté le fonds de Hetzel, mais à côté de cet entretien du patrimoine, Ségur, Zénaïde, Floriot, etc., ils misent tout sur le marché grand public. Et ils vont être beaucoup moins présents dans l'innovation du roman pour enfants entre les deux guerres qu'ils ne le furent à la génération précédente. Et donc masqués par la couverture, si vous voulez. On va encore trouver des choses intéressantes, comme les romans de Colette Vivier, mais tout de même moins. Et ce qui a été ma très grande surprise, et j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté, c'est d'avoir trouvé un jour à Nantes, dans une sorte de grande brocante, que les premiers Clubs des Cinq d'Enid Blyton avaient été édités sous la couverture ancienne de la Bibliothèque Rose. Alors c'était un choc. Les trois premiers Clubs des Cinq sont publiés dans une collection qui s'appelle Nouvelle Collection Ségur, mais c'est la couverture de la Bibliothèque Rose. Et alors, donc, la collection dure 100 ans, donc en 57, elle s'interrompt un an, elle renaît sous la formule que l'on connaît, pelliculée, illustration en couleur, nouvelle Bibliothèque Rose, on garde quand même le même format, et puis quelques années plus tard, on laisse tomber nouvelle, ça devient Bibliothèque Rose. Mais là, cette fois, Laura n'est plus là. On rentre dans une collection ordinaire et soumise à une concurrence éditoriale dans le domaine du roman, que l'ancienne Bibliothèque Rose n'avait pas. Donc là, on rentre dans le lot commun. Le lieu de mémoire n'existe plus avec la nouvelle Bibliothèque Rose, me semble-t-il.
Ce qui est frappant dans la Bibliothèque Rose, c'est qu'elle s'est tournée vers un public plus féminin et aussi plus jeune. C'est-à-dire qu'elle est devenue la bibliothèque des petits-enfants.
C'est vrai, car c'est très curieux de voir que dans la première Bibliothèque Rose, il y a en fait trois séries. Une série pour petits, qui n'est pas très abondante, qui comprend, je ne sais plus quel âge, 4 à 8 ans, ce sont des contes. Une série qui s'appelle 8-12 ans, qui est la série où il y a le plus de titres, c'est Louis Assigur. Et une série très curieuse, qui était un peu pour adolescents, voire il y avait un sous-titre, pour constituer une bibliothèque de jeunes filles.
Qu'est-ce qu'on trouvait dedans ?
Ah, qu'est-ce qu'on trouvait dedans ?
Au fond, les noms ne me disent rien. Ce sont des noms dont j'ignore tout. Pff, la mer libre du pôle, les voyages dans les glaces du pôle antarctique, je ne sais pas si c'est fascinant. Un peu d'histoire, Pompéi et les Pompéiens, vie des Grecs illustres. Bon, ça m'a l'air plus culturel. Littérature, Bernard Saint-Pierre, Homère, Gil Blas, Xavier de Maistre, Molière. Donc on est plus proche là d'une sorte de formation parascolaire, de culture générale. On a en fait quitté l'enfance.
Ils eurent beaucoup à faire ce jour-là. Il fallait empaqueter les affaires dans les sacs à dos, plier les tentes aussi convenablement que possible pour pouvoir les attacher sur les porte-bagages, chercher dans les garde-manger les vivres nécessaires, prendre les cartes routières. Dago savait bien qu'une randonnée était en vue, et il savait aussi qu'on l'amènerait. Il était aussi excité que les enfants, aboyait et remuait la queue, et se trouvait tout le temps dans les jambes de tout le monde. Mais personne ne lui en voulait. Dago était leur ami. Il faisait partie du club des cinq. Il pouvait à peu près tout faire sauf parler, et on n'aurait jamais envisagé d'aller quelque part sans emmener le bon vieux Dago.
Mais si on revient à vous, François Rivière, vous avez donc connu vos premières amours dans la Bibliothèque Rose, et particulièrement la Bibliothèque Rose, puisque vous dites que les autres étaient de pâles imitations. Mais comment est-ce que vous avez réussi le passage de cette bibliothèque de Percale à la nouvelle Bibliothèque Rose et au Club des Cinq, Enid Blyton?
Ben, je me le demande encore, en fait. Je me demande encore comment j'ai pu passer de la Comtesse de Ségur, qui était quelque chose à la fois de complètement français, parce que c'était écrit en français, et puis on voyait bien que ça avait été conçu dans un univers français, même si c'était une femme d'origine russe, à cette forme de fiction beaucoup plus moderne, beaucoup plus qui ressemblait beaucoup plus au monde dans lequel je vivais, de Enid Blyton. Mais j'ai aimé les deux, en fait. Donc je ne sais pas ce que j'aimais le plus. Je pense que je suis passé quand même de l'une à l'autre. C'est-à-dire, je suis passé quand même de la Comtesse qui était supposée être pour les petits-enfants. Puis surtout parce qu'on me la lisait, la Comtesse de Ségur. Alors qu'Enid Blyton, c'était nouveau. Ma grand-mère, ma mère ne connaissaient pas. Donc c'était quelque chose que j'ai lu, moi, parce que les libraires devaient proposer ça aux parents qui venaient acheter des livres. Et du coup, c'est moi qui les ai découverts tout seul. Il y avait le sentiment avec la Comtesse de Ségur d'un passage, d'un espèce de truc initiatique quand même, d'un rôle, d'une transmission, alors que Enid Blyton, finalement, je suis maintenant assez vieux pour dire que j'ai fait partie de peut-être pas de la première génération, mais au moins d'une des générations pour lesquelles elle a vraiment écrit, et notamment le Club des Cinq, qui est quand même son achievement, comme on dit en anglais, quoi, ce qu'elle a fait de mieux, quoi, ce qui est vraiment le ton et le style Blyton et ce truc qu'elle voulait faire rentrer dans la tête des enfants, quoi. Au fond, comme la Comtesse, elle a voulu faire passer quelque chose de sa propre enfance, quoi, de son malaise aussi, c'est même plus qu'un malaise, de son espèce d'inadéquation totale avec ce monde adulte. Qui n'avait d'intérêt pour elle que quand il était constitué d'éditeurs, d'illustrateurs, de libraires, quoi.
Mais vous dites que ça s'adressait à vous, à votre génération.
Oui, j'ai l'impression qu'elle écrivait pour des enfants modernes. Des enfants modernes dans la mesure où elle-même n'avait aucun sens de l'histoire. Donc elle écrivait pour le temps présent, quoi. Et en ce sens, je pense qu'elle était complètement en accord avec ces enfants du baby-boom qui, pour la plupart, surtout enfants, quoi, n'avaient aucune préoccupation autre que celle de se sentir bien dans un monde prospère, d'après-guerre, et d'après une guerre dont ils entendaient parler, mais dont ils n'avaient rien à fiche, finalement. C'est ça, il y a un côté extrêmement ingrat dans le baby-boom, que ce baby-boom devenu adulte paiera tôt ou tard. Je pense, il y a quelque chose d'extrêmement ingrat. Et Blyton était là parfaitement matérialiste, égoïste, pour dire à ses enfants, amusez-vous bien, profitez-en, quoi. Et détestez le monde adulte autant que vous pouvez, quoi. Ces gens qui ont survécu à deux guerres et qui sont chargés de votre éducation. C'est complètement cynique, le monde de la chère Enid Blyton. C'est complètement cynique parce que, de toute façon, il y a aucune préoccupation, ni sociale, ni philosophique, ni historique, ni rien du tout. Elle était totalement inculte. Je crois que le mot est un peu fort, mais dit à peu près ce qu'il a à dire.
Mick ne comprit qu'une chose, que ces hommes, pour une raison quelconque, en voulaient à Richard et qu'ils le prenaient pour lui. « Je ne suis pas le garçon que vous cherchez, dit-il, et si vous ne me laissez pas tranquille, je me plaindrai. N'essayez pas de nous raconter des histoires, grand homme. Tu es Richard, Richard Quentin. Je ne suis pas Richard Quentin, cria Mick, sentant la main de l'inconnu s'abattre sur son épaule. Attendez un peu que la police soit au courant. Elle ne sera jamais au courant, dit l'homme. Allez, viens, et ne crie pas, ne te débat pas, sinon tu le regretteras. Quand on sera à la taverne de la Chouette, on s'occupera de toi sérieusement.
Ce que j'ai aimé chez Blighton, en étant gosse, c'était justement le fait de pouvoir passer sans transition de mon monde à moi au sien, quoi, de bondir comme ça, ou inversement. Je me posais pas d'autres questions, puis à ce moment-là, je me posais pas non plus la question de savoir si c'était français ou anglais, et pendant longtemps, j'ai ignoré qu'elle était anglaise, en fait.
Est-ce qu'elle était pas inspiratrice de jeu?
Bah, d'une certaine manière, oui, on jouait aux espions grâce à elle, on jouait un peu aux détectives, mais justement de la même manière que ces personnages, c'est-à-dire sans que ça soit très important. C'est ça qui est très étrange d'ailleurs, et c'est peut-être ça sa philosophie, parce qu'au fond tout le monde a une philosophie. C'était une espèce d'hédonisme un peu mou, une sorte de un espèce de laisser-aller gentil, la fierté d'être des enfants, c'est-à-dire de se sentir supérieur parce qu'on était plus drôle, plus agile, plus malin, plus moqueur que les adultes qui eux étaient embourbés dans des tas de problèmes, des tracas quotidiens, et puis la nécessité de faire vivre les enfants. Je pense qu'il y avait ça, sa vengeance à Blighton, c'était d'être restée une petite fille que son père avait abandonnée quand elle avait 13 ans. C'était ça, c'était de montrer que les adultes étaient au fond des gens pas très intéressants. Et au fond, quand on y pense, ça a peut-être été criminel de laisser se répandre des millions d'exemplaires d'Enid Blighton sur la planète, singulièrement en Angleterre, en France et en Allemagne, ce qui est symboliquement est assez curieux, quoi. Je pense que naguère dans un livre comparé à une drogue douce, Blighton, parce que je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une espèce de, c'est vraiment une parcelle de LSD, mais vraiment très 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 minime, instillée dans un marshmallow.
Annie était toujours perchée en haut de son arbre. Elle ne pouvait ni bouger, ni parler. Elle essaya d'appeler, mais sa langue semblait collée à son palais. Elle vit son frère emmené par les deux inconnus et faillit tomber d'horreur en l'entendant hurler et protester, tandis qu'il était entraîné de force vers la profondeur des bois. Elle se mit à pleurer, sans oser descendre de son arbre, car elle tremblait tellement qu'elle avait peur de perdre l'équilibre. Il fallait attendre le retour de Claude et de François. Mais s'ils ne revenaient pas, s'ils avaient été faits prisonniers eux aussi, elle serait toute seule sur son arbre toute la nuit. Les larmes d'Annie devinrent des sanglots. Elle se cramponna à une grosse branche. Et, enfin, elle entendit un bruit de pas et de voix. Qui était-ce cette fois? Oh, pourvu que ce soit François, Claude et Dago, pourvu que ce soit eux.
Laurence de Créault, les origines de la Bibliothèque Rose pour vous? Lectrice, enfin.
Le premier contact avec la Bibliothèque Rose n'était curieusement pas Oui-Oui, qui a priori est le héros des tout-petits, c'était le Club des Cinq, et là ça a été le choc de ma vie. Et je dois le dire, j'ai maintenant 35 ans, et le Club des Cinq reste ce qui a déclenché en moi non seulement la passion de la lecture, mais la certitude que je passerai ma vie à m'occuper d'histoires qui font rêver. Alors, en particulier, je me souviens très bien que c'était le Club des Cinq en vacances. Et pourquoi le Club des Cinq en vacances? Parce que c'est sans aucun doute le Club des Cinq dans lequel le lieu, vous savez que les lieux sont très importants dans cette série, et c'est le lieu le plus fascinant, le plus terrifiant, qui est entouré d'une espèce d'enveloppe de brouillard qui fait comme une espèce de muraille un peu virtuelle. Et à l'intérieur de ça, on ne sait donc pas si ce lieu est positif ou s'il est maléfique. Il y a à la fois la naissance de l'amitié, il y a en même temps des méchants qui font des bruits bizarres, il y a ces signaux lumineux dans le lointain. Et je crois que ça m'a toujours marqué. Hein. Et je me souviendrai toujours de ce château ambigu dont on ne sait pas si on va y trouver sa perte ou au contraire si on va y trouver une espèce de régénérescence. Je me souviens notamment de certaines images, j'aimais beaucoup les illustrations qui je crois étaient de Jeanne Bazin déjà à l'époque, où on voyait cette espèce de faisceau lumineux de torches dans la pénombre, et ça on le retrouve évidemment dans tous les clubs des cinq, il y a toujours le tunnel et les enfants qui se baladent avec leurs lampes torches. Je me souviens de la façon de toucher le livre, cette espèce de couverture qui était vernie.
Et puis ça vous a donné de l'intérêt pour les héros de série. Et en fait, la Bibliothèque Rose après-guerre, c'est ça, c'est la littérature de série.
achète, invente en quelque sorte, ou peut-être n'invente pas, mais en tout cas lance sur le marché de façon phénoménale la littérature de série pour la jeunesse.
Il s'est trouvé que ce n'est pas Hachette, ce ne sont pas des auteurs français qui ont inventé ça. Quoique, bien sûr, on rattache ça traditionnellement à la comtesse de Ségur avec ses premiers héros récurrents qui sont Sophie, Madeleine, Camille et Marguerite. Mais bon, il s'est trouvé que Hachette, alors je ne sais plus qui était à l'époque à la direction éditoriale, mais c'est quelqu'un qui avait un... Pardon ?
Louis Mirmand ?
Oui, c'est ça, ça devait être Louis Mirmand, qui est quelqu'un d'admirable, je ne connais pas, mais il a fait des choix remarquables. Et donc, il est allé acheter la série Alice, enfin, qui s'appelait Nancy Drew aux États-Unis, et ainsi que le Club des Cinq. Et là, ça a été un boom incroyable. Et à partir de là, les auteurs français sont venus rejoindre ces grands auteurs qui étaient donc Enid Blyton anglaise et Caroline Keane, pseudo-Caroline Keane américaine. Alors, c'est là qu'on a vu arriver un peu plus tard Vladimir Volkov avec Langelot. C'est là qu'on a vu arriver Georges Cholet, qui à l'époque était, je crois, marchand de café et qui écrivait bon, des romans pour sa petite fille. Et ben, il a fait une espèce de transposition d'Arsène Lupin en petite fille, et voilà. Donc, bon, ça nous a donné, je crois, quelque chose comme 60 titres. Donc, c'est ça qui est très caractéristique de cette littérature de série. C'est tout de même que, quand on dit série, c'est pas 10 titres, quoi. Ce sont des gens qui sont prolifiques. Et souvent, d'ailleurs, malgré eux.
Là, on pense complètement aux feuilletonistes du 19e siècle.
C'est exact.
Qui étaient obligés aussi de répondre aux attentes des lecteurs.
Ah ben c'est exactement ça. Et disons que la créature fictive, le Club des Cinq ou bien Rocambole ou autre, prend le pas sur l'auteur, lequel devient carrément taillable et corvéable à merci. Et il est le bourreau étant le héros qui a le droit de vivre et qui prospère, et qui, de numéro en numéro, de titre en titre, est de plus en plus prospère. Oui.
Alors des séries qui sont plébiscitées par les enfants, qui sont... honnie par les adultes.
Oui, bon. Oui,
on est... Parce que la Bibliothèque Rose, c'est ça. La Bibliothèque Rose, quand on en parle, à la fois on éveille des sourires émerveillés et puis des mous pincés d'adultes qui ont très très peur que leurs enfants lisent ça.
Oui, enfin exactement ce qui s'est passé pour la BD à une époque où on crachait sur la BD. Si moi je me souviens, mes parents prenaient, dès qu'ils me voyaient qu'une bande dessinée, ils l'affichaient à la poubelle alors qu'ils me faisaient aller à la Bibliothèque Rose. 15 ans plus tard, c'est l'inverse. Tu peux lire des BD, mon fils, mais si on voit une Bibliothèque Rose, on la déchire. Bon, il y a ce qui est peu... intellectuellement correct et puis incorrect, il se trouve que la Bibliothèque Rose, depuis quand même maintenant un petit bout de temps, a pris des connotations incorrectes. Alors je pense qu'en fait, c'est plus ou moins politique à l'origine, hein, j'ai l'impression, parce que pendant très longtemps, ça a été la lecture recommandée, qui était chaudement recommandée à l'école, et puis d'un seul coup, au moment des années 68-70, c'est devenu le diable. Et un des arguments très souvent repris était que ça véhiculait une image de la société un peu figée, post-victorienne en ce qui concerne Enid Blyton. Ben bon, moi je ris un peu, quoi, parce que moi, quand je dis je ris, non, je ne ris pas, en fait. C'est même carrément ce qui m'a mise dans une colère noire lorsque je me suis occupée de ces collections, c'est que mes grands souvenirs émerveillés, comme je le disais tout à l'heure, de lecture, c'était le Club des Cinq, et je ne vois pas pourquoi on interdirait aux mômes d'avoir ce même genre de choc, je dirais de choc poétique.
Oui, parce que vous disiez, ce genre de littérature peut intéresser même les analphabètes, mais ça intéresse aussi des gens qui ne sont pas et ne resteront pas analphabètes et qui peuvent même passer à des lectures tout à fait autres et intéressantes.
De même que les romans feuilletons du 19e étaient lus aussi par les gens les plus cultivés qui soient. Ça, c'était absolument... C'est quelque chose, curieusement, qui est assez démocratique. C'est comme, vous savez, la chanson populaire. La chanson populaire, on est tous à fredonner les mêmes refrains, quelle que soit la classe sociale. Et je pense que ça, le Club des Cinq ou bien les romans populaires font partie de ce même type de produits culturels qui créent un lien entre les gens les plus divers qui soient.
La Bibliothèque Rose, avec Francis Marcoin, Isabelle Nière, François Rivière et Laurence de Créau. Archivina 1953. Texte lu par Alice et Pauline Bravin. Une émission proposée par Ruth Stegassi. Mixage Philippe Carminati et Pierre Bouillin. Réalisation Josette Collin.
Cette émission de Ruth Stegessy, réalisée par Josette Collin, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 décembre 1998. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.